Vous êtes bien sûr Radio Orient, un journal spécial sommet de la francophonie réalisé depuis Djerba en Tunisie. Le deuxième et dernier jour du 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, une autre dimension doit être donnée à la francophonie. La francophonie peut aller beaucoup mieux, selon les mots du ministre tunisien de l'économie et de la planification. Samir Sayed a accordé un entretien à Radio Orient, nous l'écouterons. Le prochain sommet de la francophonie se déroulera en France. Le président français l'a annoncé hier soir. Le français est une langue qui doit être aussi hospitalière, a affirmé Emmanuel Macron. C'était lors d'une rencontre avec des membres du réseau Jeunes Ambassadeurs Francophones. Vous entendrez le président français. La journée d'hier a notamment été marquée par la visite de la chef du gouvernement tunisien, Najla Bouden, au village de la francophonie. Radio Orient était sur place. Regard dans votre journal sur l'entrepreneuriat sur le continent africain. Nous écouterons le directeur des programmes jeunesse au sein de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Modibo Traoré. Un autre événement fait l'actualité, notamment en Tunisie, le mondial de football qui débute ce dimanche. La première rencontre de la sélection tunisienne opposera mardi prochain la Tunisie au Danemark. Rencontré près du lieu où se déroule le sommet de la francophonie, Ali, commerçant, fait part de son soutien aux Aigles de Carthage. Nous écouterons son enthousiasme. Le deuxième et dernier jour du 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Le président tunisien souligne que la Tunisie est consciente des changements mondiaux et que malgré les obstacles et les tentatives d'organiser le sommet ailleurs, la Tunisie a respecté ses engagements et a fait preuve de persévérance et de volonté grâce, entre autres, à ses amis. Entretien à présent avec le ministre tunisien de l'économie et de la planification, Samir Sayed, pour qui une autre dimension doit être donné à la francophonie. Samir Sayed.
Il est vrai que la Tunisie peut en bénéficier compte tenu du fait qu'elle est dans un positionnement géographique privilégié entre l'Afrique et l'Europe, mais et puis également qu'elle est dotée de pas mal de ressources humaines qui sont reconnues mondialement. La Tunisie est toujours dans le top 5, les 5 premiers dans le monde en matière de production de scientifiques, d'ingénieurs per capita, rapporté au nombre de la population. Donc, nous avons le facteur qui est recherché aujourd'hui, le facteur de compétences humaines. Donc, c'est pour ça que, entre autres, nous allons proposer qu'il y ait un privilège peut-être donné à l'économie de savoir. Dernièrement, on a observé un peu la France qui a fait des percées dans ce domaine-là et peut-être qu'elle pourrait être la locomotive à côté d'autres pays locomotives comme le Canada, comme la Suisse, le Luxembourg, etc. Donc, qui peuvent peut-être donner un modèle qui peut être émulée par la Tunisie et les autres pays francophones.
Et quel type de répercussions économiques attendez-vous suite à ce sommet international francophone ?
Moi, je pense qu'il faut surtout mettre une fondation solide pour pouvoir créer un espace supplémentaire pour les pays francophones, parce que chaque pays a déjà une appartenance à un certain espace. La Tunisie, elle appartient à l'espace déjà méditerranéen, on est proche avec l'ALECA de l'Europe. Nous avons l'Union du Maghreb arabe, nous avons le COMESA, nous avons l'Association également de libre-échange du continent africain. Donc, une autre dimension doit être donnée à la francophonie. Peut-être qu'il faudra un peu de temps pour la constituer, parce qu'un espace de libre-échange, ça prend du temps. Mais pour cela, il faudra essayer de mettre en place les mécanismes qui le permettent. Déjà, le plan de stratégie de la francophonie qui a été mis depuis 2020, qui couvre la période 2020-2025, il a mis une fondation solide, puisqu'il a priorisé l'économie numérique, la femme et l'inclusion. Je pense que ces trois piliers qui sont fondamentaux pour mettre en place un développement commun, inclusif et durable.
Comment se porte-t-elle, selon vous, aujourd'hui, la francophonie ?
Je pense qu'elle peut aller beaucoup mieux. Elle n'a pas rempli tout son potentiel et elle a des moyens immenses qu'elle n'a pas encore valorisés. Donc je pense qu'il est important de avoir des discussions fructifiantes parce qu'on va avoir le forum économique. Donc penser aux différents mécanismes qui permettront de mettre en place cette fondation et d'accélérer les échanges à la fois commerciaux et d'investissement, un peu le champ économique qui nous permettra un peu de bénéficier de cette diversité de la francophonie. Parce que vraiment, 88 États qui appartiennent pratiquement à tous les continents et qui ont des économies diverses qui peuvent se renforcer mutuellement. Donc une approche plus coopérative que compétitive. Et je pense qu'on en a les moyens et ce que je ressens, c'est que la volonté y est.
Le ministre tunisien de l'économie et de la planification, Samir Saïed, au micro de Radio Orient. Parmi les chefs d'État présents, le président français, le prochain sommet de la francophonie se déroulera en France. Emmanuel Macron l'a annoncé hier, sommet qui se tiendra en 2024. Emmanuel Macron, pour qui la francophonie doit porter un projet de reconquête de la langue française. Lors d'une rencontre avec des jeunes ambassadeurs de la francophonie, le chef de l'État estimait que la langue française devait contribuer à être un dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans, a déploré Emmanuel Macron. Radio Orient, présente à Djerba, a recueilli son propos, le président français.
C'est une langue qui doit être aussi hospitalière. Et je crois beaucoup à cette idée. Ce que Léa a dit est très important, c'est-à-dire qu'il y a des Français, il y a une francophonie qui charrie des patois. D'ailleurs, la France s'est constituée, si je puis dire, ainsi. Et il y a toujours eu une volonté d'uniformiser la langue, il y a toujours eu des résistances de mots qui se sont d'ailleurs ensuite invités dans la langue française et qui sont devenus académiques après beaucoup, beaucoup de résistances. Cette langue, elle s'est confrontée à d'autres continents par les hasards, les blessures ou les morsures de l'histoire. Et d'ailleurs, chaque continent a ensuite injecté ces mots dans la langue française. Et des mots qui viennent de tous vos pays d'origine, vous avez évoqué, sont là en langue française et sont devenus des mots français. Beaucoup de gens, d'ailleurs, quelles que soient leurs idées, les ont adoptés, les utilisent chaque jour, etc. Et ça va continuer de se faire comme ça. Et donc ça, c'est la force de la langue française qui n'est pas suffisamment mise en lumière, mais elle doit continuer à être inventive. Et elle l'est à travers les usages du quotidien, le travail, la création, la chanson, etc. Après, il y a une réalité, c'est que le français, la francophonie s'étend par la démographie de certains pays qui sont dans la francophonie, mais qu'il y a aussi des vrais reculs qui sont là ces dernières décennies. Il faut être lucide. Dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est une réalité. Parce que il y a eu parfois des formes de résistance quasi politique, c'est une langue qui peut paraître plus difficile, il y a eu une volonté de réhabiter d'autres langues en se disant « c'est comme ça qu'on trouve notre chemin politique ». Parce qu'il y a aussi un anglais qui est le nouvel espéranto qui s'est développé avec cette facilité d'usage et où finalement les gens ont accepté un espace linguistique où on se dit avec quelques mots et un usage imparfait, on se retrouve entre nous, personne ne nous juge et on arrive à communiquer partout. Et ce qui fait que la francophonie a un peu reculé à cet égard. Mais voir votre génération qui le porte est très important. Mais moi, je pense qu'on doit avoir un projet derrière, qui est un projet de reconquête. Non, mais qui passe par créer en français. Et moi, je pense que c'est très important, parce que quand on a un imaginaire, des héros, des héroïnes, des chansons qu'on aime et qui nous touchent, des livres qui nous ont bouleversés, c'est comme ça qu'on va vers la langue, et que tous les efforts, à ce moment-là, sont possibles. Ensuite, c'est, comme ça a été dit, de re-rendre... par vos générations, cette langue hospitalière. Et de montrer dans tous les pays qu'on peut parler un français qui n'est pas forcément le français académique, mais qui est la langue qui va nous permettre de faire du commerce, de parler, de nous retrouver. Et je pense en particulier pour le continent africain, que c'est la vraie langue universelle du continent africain. Et c'est celle qui permet d'ailleurs de créer l'unité à laquelle moi je crois beaucoup. La francophonie, c'est la langue du panafricanisme. Si je devais faire combat politique à l'envers, si je puis dire.
Le président français Emmanuel Macron, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiwabo, a présenté les enjeux et les objectifs de la francophonie. Elle a mis l'accent sur la nécessité pour l'espace francophone de continuer à évoluer dans la diversité sans remettre en cause sa spécificité et son identité. Regard à présent sur l'entrepreneuriat sur le continent africain. Entretien avec le directeur des programmes jeunesse au sein de la conférence des ministres de la jeunesse et des sport de la francophonie, Modibo Traoré.
Pour le sommet de la francophonie et pour les autres sommets auxquels nous avons participé, nous organisons ce que nous appelons le Salon des jeunes entrepreneurs. C'est la 4e édition après Dakar, après Madagascar et après Erevan, nous avons organisé ce salon ici à Djerba avec 14 jeunes entrepreneurs qui viennent de 10 pays différents. Alors, il faut préciser que c'est un programme que nous avons au niveau de la Confédès, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes que nous appelons PIPEJ, qui existe depuis 1989. Et grâce à ce programme, nous finançons les projets portés par des jeunes et qui sont soumis à un comité technique international que nous avons, le CTSO, Comité technique de sélection et d'orientation, qui sélectionne les meilleurs projets des jeunes, qui finance ces différents projets, et ensuite nous faisons le suivi et l'évaluation. Donc, nous avons dans ce cadre-là sélectionné 14 projets portés par des jeunes entrepreneurs qui sont là présents à ce salon. Ce sont des jeunes qui viennent de la Tunisie, nous en avons 4, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de Maurice et du Sénégal. Donc ce sont ces jeunes entrepreneurs qui sont là pour présenter leurs produits. C'est également faire valoir l'expérience de leur pays également dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc c'est pourquoi ces jeunes sont là. Ce sont des jeunes qui excellent dans différents domaines. Et vous avez également des domaines du numérique ici. Vous avez des domaines de l'agriculture, de l'artisanat. Et ce sont ces jeunes qui sont présents à Djerba dans le cadre de ce salon.
Et ce qui lie ces jeunes personnes, c'est la langue française.
C'est la langue française, effectivement. Ils sont tous des pays francophones, parce que la Confédération compte 43 États et gouvernements membres, tous de l'espace francophone. Et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est la langue française également qui unit ces jeunes-là qui sont présents actuellement ici. Et comme je l'ai dit, vous avez parmi eux 4 jeunes Tunisiens également qui participent à ce salon.
Vous portez quel regard sur ce sommet international de la francophonie ici à Djerba? Le fait que ce sommet se déroule sur le continent africain, c'est un élément important?
C'est plus qu'un élément important, parce que vous savez que nous avons traversé une période un peu trouble avec la pandémie de la COVID-19. Vous avez l'instabilité également dans les États et gouvernements membres. Et c'est une occasion de retrouvailles. Et après ces quelques années, ce sont des années de retrouvailles, ce sont des années d'échanges, ce sont des années de convivialité à travers et autour de la langue française. Et c'est ce qui est important. Malgré la diversité culturelle que les uns et les autres ont, il y a un cadre d'échange et de retrouvailles, non seulement pour les chefs d'État, mais également pour les décideurs, pour les opérateurs, pour les acteurs de la charte, de se retrouver et d'échanger sur des questions liées à la francophonie.
Quel regard portez-vous sur la coopération aujourd'hui entre les différents pays francophones et sur l'apport de la francophonie?
C'est un regard beaucoup plus dynamique. C'est un regard qui se veut, surtout pour les jeunes, un regard promoteur pour un avenir meilleur pour la jeunesse, parce que nous sommes dans le domaine de la jeunesse et nous pensons qu'il est plus que jamais important pour les pays, pour les États, de se retrouver dans une synergie d'action. Parce que seuls les échanges autour des différentes valeurs, autour d'une synergie d'action, peut faire avancer la francophonie. Vous savez, vous ne l'ignorez pas, la francophonie perd aujourd'hui un peu de sa vitesse de croisière. Et aujourd'hui, pour insuffler ce dynamisme à la francophonie, il faut plus que jamais une coopération entre les États et gouvernements membres. Il faudrait une synergie d'action, que des échanges beaucoup plus puissent se développer entre les États et gouvernements membres pour faire avancer ce que j'appelle la locomotive de la francophonie. Et si les jeunes qui sont porteurs de valeurs peuvent également être dans cette dynamique, ce serait véritablement une bonne chose. Vous voyez, nous avons aujourd'hui 13 jeunes, et ce sont des jeunes qui se rencontrent, qui ne s'étaient jamais vus, et qui à travers la langue française se retrouvent, échangent, et je pense que c'est cette dynamique qu'il nous faut impulser pour que les jeunes, faire en sorte que les jeunes se rencontrent et au sein et dans les espaces francophones, qu'ils se rencontrent régulièrement pour pouvoir échanger et pouvoir partager ce qu'ils ont en commun et même ce qu'ils n'ont pas en commun, mais également faire en sorte que dans une coopération véritable, que ces jeunes puissent nous permettre de faire en sorte que la francophonie puisse avoir un élan, un essor pour la promotion de l'espace et pour ce que nous appelons impacter davantage l'espace francophone.
C'est important aussi pour l'image du continent africain.
Absolument, c'est important pour l'image du continent africain. Vous savez qu'il y a quelques années, nous étions à Erevan. Nous revenons en Afrique ici. Qu'est-ce qu'il nous faut encore beaucoup plus développer dans le domaine francophone pour asseoir une certaine synergie, une certaine avancée pour la francophonie? Je pense qu'il y a des choses qu'on peut encore imaginer, il y a des choses qu'on peut encore initier en dehors de ce cadre qui est beaucoup plus un cadre politique avec les chefs d'État. Mais il nous faut des cadres également d'échange en dehors de ce cadre pour véritablement voir dans le cadre de la diversité culturelle, mais avec en commun, on le sait tous, la langue française, comment faire évoluer les activités, les affaires et donner encore plus d'élan aux Français.
Modibo Traoré, directeur des programmes jeunesse au sein de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. La journée d'hier, lors de ce sommet à Djerba, a notamment été marquée par la visite de la chef du gouvernement tunisien, Najla Boudène, au village de la francophonie. Un espace qui propose de nombreuses activités, notamment culturelles. Radio Orient était sur place. Najla Boudène s'est entretenue avec de nombreux artisans et exposants. Elle était accompagnée du ministre du Tourisme, du ministre des Affaires culturelles et du ministre de l'Économie et de la Planification. Un autre événement fait l'actualité, notamment en Tunisie, le mondial de football qui débute ce dimanche. La France sera privée de Karim Benzema. Blessé à la cuisse, l'attaquant a été contraint de déclarer forfait. La première rencontre de la sélection tunisienne opposera mardi prochain à 14h la Tunisie au Danemark. Rencontré près du lieu où se déroule le sommet de la francophonie, Ali, commerçant, fait part de son soutien aux Aigles de Carthage.
Oui, Inch'Allah, bon courage pour les Tunisiens contre le Danemark. Bon courage. Inch'Allah, la grinta et le cœur, on va gagner. Inch'Allah.
Pourquoi c'est important la présence de la Tunisie à ce mondial?
La mondiale, peut-être on a la chance quand même d'aller à la deuxième tour, peut-être. Parce qu'on a déjà fait, maintenant c'est la 16e fois Coupe du Monde, toujours première tour. Peut-être cette fois on a la chance qu'on va continuer.
Et vous comptez sur quel joueur?
Ah, on a Hannibal et Lemsekli. Ça, il fait la différence. Ils sont bien, ils sont magnifiques. Inch'Allah, le chance. Inch'Allah, le chance.
C'est un moment important en ce moment pour la Tunisie, qui accueille le sommet de la francophonie et qui a un match de football très important pour le mondial.
Nous, on joue mardi. Alors, nous, avec la francophonique et avec la Tunisie, les deux. Inch'Allah, bonne chance et bon courage pour tout le monde. Inch'Allah pour tout le monde. Et surtout pour Djerba, Djerba la douce, Djerba la fidèle.
Ainsi se termine cette édition spéciale réalisée depuis Djerba en Tunisie à l'occasion du sommet de la francophonie. Un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.